les péchés et leur influence sur le jeûne. Le jeûne est un culte visant à purifier l'âme, à revivifier la conscience, à renforcer la foi et à préparer le jeûneur pour qu'il fasse partie des pieux. Le Très-Haut dit en effet, ce qui peut se traduire par « On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs afin que vous atteigniez la piété ». Verset du Coran 183, sourate numéro 2. C'est pour cette raison que le jeûneur doit préserver son jeûne de tout ce qui pourrait l'entacher, voire même le détruire. Il doit ainsi préserver son ouïe, son regard et ses sens de tout ce qu'Allah Ta'ala a interdit. Il doit par conséquent garder sa langue chaste, ne pas prononcer de paroles obscènes ni inconsidérées, ne pas proférer d'insultes ni hausser le ton par colère, ne pas répondre à une offense par une offense, mais plutôt y répondre avec bonté. Bref, il s'agit, vous l'aurez compris, de faire du jeûne un bouclier contre le péché et la désobéissance envers Allah d'une part et contre le châtiment divin dans l'au-delà d'autre part. C'est pour cette raison que nos pieux prédécesseurs, radiallahu anhuma ajma'in, ont dit « Le jeûne valide est celui où les sens s'abstiennent du péché comme l'estomac et le sexe s'abstiennent de leur plaisir. » Le jeûne est un culte visant à purifier l'âme, à revivifier la conscience, à renforcer la foi et à préparer le jeûneur pour qu'il fasse partie des pieux. Le Très-Haut dit en effet, dans le noble Coran, ce qui peut se traduire par « On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah, verset 183. C'est pour cette raison que le jeûneur doit préserver son jeûne de tout ce qui peut l'entacher, voire même le détruire. Il doit ainsi préserver son ouïe, son regard et la totalité de ses sens de tout ce qu'Allah Ta'ala a interdit. Il doit garder sa langue chaste, ne pas prononcer de paroles inconsidérées ni obscènes, ne pas proférer d'insultes ni hausser le ton par colère, ne pas répondre à une offense par une offense, mais plutôt y répondre avec bonté. Bref, vous l'aurez compris, il s'agit ici de faire du jeûne un bouclier contre les péchés et la désobéissance envers Allah d'une part et contre le châtiment divin dans l'au-delà d'autre part. C'est pour cette raison que nos pieux prédécesseurs, radiallahu anhum ajma'in, ont dit « Le jeûne valide est celui où les sens s'abstiennent du péché comme l'estomac et le sexe s'abstiennent de leur plaisir. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jeûne est un bouclier lorsque l'un de vous jeûne, qu'il ne prononce pas de paroles obscènes et qu'il ne se mette pas en colère. Si quelqu'un l'insulte ou qu'il l'agresse, qu'il dise simplement « Je jeûne deux fois. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également « Celui qui n'abandonne ni le mensonge ni les mauvaises actions, Allah n'a besoin qu'il n'abandonne ni sa nourriture ni sa boisson. » Rapporté par Al-Bukhari dans le chapitre du jeûne. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim ?» Et dans une autre version de ce hadith, on peut trouver « Combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif ?» Omar ibn al-Khattab radallahu anhu a dit « Le jeûne ne consiste pas à se priver de boisson et de nourriture uniquement, mais il consiste également à s'abstenir du mensonge et des paroles futiles. » Jabir ibn Abdullah a dit « Si tu jeûnes, alors fais jeûner ton ouïe, ton regard et ta langue du mensonge et du péché. Ne maltraite pas ton serviteur, reste calme et serein le jour de ton jeûne et ne fais pas en sorte que le jour du jeûne soit identique au jour de non-jeûne. » Abu Huraira et ses compagnons, radiallahu anhum ajma'in, avaient l'habitude lorsqu'ils jeûnaient de s'asseoir dans la mosquée et de dire « Nous purifions notre jeûne ». Hafsa bin Sirin, une femme parmi les compagnons, a dit « Le jeûne est un bouclier qui protège son propriétaire tant que celui-ci ne le trouve pas, et il le trouve lorsqu'il se met à calomnier. » Un savant parmi les musulmans a dit « Nos prédécesseurs pensaient que le mensonge avait pour effet de rompre le jeûne. » Un autre a dit « Le jeûne le plus facile est celui qui consiste à n'abandonner que la nourriture et la boisson. » C'est pour cette raison que certains musulmans des premières générations pensèrent que les péchés rompaient le jeûne. Ainsi, pour eux, celui qui transgressait un interdit par la langue, en mentant ou en calomniant, celui qui prêtait l'oreille à un interdit, celui qui regardait avec concupiscence un interdit, celui qui portait la main vers un interdit, bref, celui qui commettait un péché de ce genre, voyait son jeûne rompu. Donc pour certains des compagnons, la langue rompt le jeûne, l'oreille rompt le jeûne, l'œil rompt le jeûne, la main rompt le jeûne, le pied rompt le jeûne, tout comme le ventre et le sexe rompt. Mais selon la majorité des savants, les péchés n'annulent pas le jeûne, bien qu'ils l'entachent et réduisent le profit que l'on peut en tirer. Nul n'est infaillible devant le péché, sauf celui qu'Allah a épargné. C'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les péchés de la langue. Pour cette raison, l'imam Ahmed a dit « Si la médisance rompait le jeûne, alors nous ne jeûnerions plus. » Cette phrase a été prononcée par l'imam Ahmed. Alors qu'en est-il de nous-mêmes? Quand l'on connaît la ferveur et le renoncement à la vie matérielle dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Donc l'avis prédominant des savants est que les péchés ne rompent pas le jeûne, contrairement à la nourriture et à la boisson. Mais néanmoins, les péchés diminuent la récompense du jeûne et peuvent même aller jusqu'à faire perdre sa totale rétribution. Le fait est que cette perte n'est pas légère pour les gens doués de sens et ne la négligent que les imbéciles. Ces derniers se contraignent en effet à la faim et à la soif, privant leurs âmes de ses désirs, puis à la fin ressortent du jeûne avec un capital de bonne action réduit à zéro. L'imam Abu Bakr ben al-Arabi dit dans l'explication du hadith suivant: celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa mise en pratique, alors Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. Donc il a dit: on comprend de ce hadith que celui qui commet les transgressions susmentionnées ne reçoit pas de récompense pour son jeûne. Autrement dit, la récompense du jeûne ne saurait faire le poids devant le mensonge et les autres péchés évoqués. L'érudit al-Baydawi a dit: la faim et la soif ne sont pas les buts visés par la prescription du jeûne. On vise plutôt ce qui s'ensuit en termes de mise en déroute des instincts concupiscents et de soumission de l'âme incitatrice au mal à l'âme apaisée. Si cela ne se produit pas, alors Allah Ta'ala ne regardera pas le jeûne avec satisfaction. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a pas besoin, par métaphore de l'absence de l'agrément divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi omis la cause pour exprimer la conséquence sous-jacente. Le jeûne pendant le mois de Ramadan en particulier est une occasion de se purifier des péchés accumulés durant les 11 mois précédents. Quiconque jeûne alors de manière sincère et dévouée devient digne de ressortir de ce mois, expié de toutes ses fautes et purifié de tous ses péchés, en particulier les péchés mineurs, que l'être humain commet jour et nuit, qu'il soit au repos ou en activité. Ces péchés mineurs peuvent être considérés de petites importances par celui qui les commet, alors qu'il ne se rend pas compte que leur accumulation peut le ruiner et précipiter sa perte. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les cinq prières rituelles, la prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, ont tous pour effet d'absoudre les péchés si on évite de commettre des graves péchés. Ce hadith est rapporté par Muslim. Quant au hadith suivant, nul ne l'ignore. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et dévotion sera expié des fautes qu'il aura commises auparavant. Donc celui qui souille son jeûne par les péchés de l'ouïe, du regard, de la langue ou des sens de manière générale aura perdu l'occasion de se purifier et ne méritera pas le pardon promis par Allah. Non seulement il ne méritera pas le pardon promis par Allah, mais il sera même susceptible d'être atteint par ce que nous a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith: celui qui vit jusqu'au mois de Ramadan sans mériter le pardon d'Allah, Allah l'éloignera de lui. Wa Allahu a'lam.